Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Le président Joko Widodo devrait être le premier président à visiter le palais de Siak. L'Indonésie prépare des navires de guerre de la marine. Selon le vice-président Yusuf Kalla, chaque tentative qui vise à libérer les otages a des risques. L'Indonésie doit apprécier le verdict de CPA contre la mer de Chine méridionale. Le ministère de l'Industrie organisera un concours Innover Jogja pour réveiller l'industrie créative. La ministre Susi encourage les attitudes des données mondiales de la pêche. Charami nous présente maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo devrait être le premier président de la République d'Indonésie qui visite le palais de Sultan Siak ou le palais Aseria Hashimiya, situé dans la ville de Siak, Sri Indrapura, la régence de Siak, la province de Riau. Le président visitera le palais de Siak le 23 juillet 2016, coïncide avec la mise en œuvre de la Journée mondiale de l'environnement 2016. Cela a été déclaré par le régent de Siak, M. Samsuar, à Jakarta, mardi. Le vice-président Hatta a eu visité le palais de Siak. Ce sera l'histoire pour le peuple de Riau, surtout les gens de Siak. La ville de Siak, comme l'un des plus propres petites villes en Indonésie, est officiellement nommée pour accueillir la Journée mondiale de l'environnement 2016 par le ministre de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya. Au sommet de l'événement, le président Joko Widodo va planter un arbre dans la cour du palais et soumettre les prix nationaux aux récepteurs de Kalpataru, Nirwasita Tantra Award, Adipura, tels que Paripurna, Buana et Kirana, et Adiwiyata Mandiri. Le gouvernement indonésien a encouragé le gouvernement malaisien et les Philippines à vouloir se mettre d'accord sur les normes opérationnelles des procédures ou SOP des bateaux de patrouille dans la région de la mer qui est souvent utilisée comme lieu d'opération du groupe militant philippin Abu Sayyaf. Jusqu'à présent, l'Indonésie et la Malaisie sont toujours laissées par l'incident de l'arrestation des deux citoyens parce que ce groupe demande toujours leur rançon. L'attaché de défense de l'ambassade d'Indonésie en Malaisie, le colonel Iwan Bambang, a déclaré que le gouvernement indonésien avait répondu sérieusement à l'enlèvement grave des citoyens indonésiens fait par Abu Sayyaf. Cet incident ne peut pas être négligé. En plus d'encourager l'existence des bateaux de patrouille, l'Indonésie a encouragé la création de conditions de sécurité sur la mer de Sulu. Si l'accord est ensuite convenu, l'Indonésie va déployer des personnes de défense, notamment la marine indonésienne, avec des navires de guerre pour garder les zones considérées comme vulnérables.
Mudah-mudahan lah minggu depan ini dengan kehadiran
Espérons que la semaine prochaine, avec la présence de trois ministres de la Défense à Kuala Lumpur, un accord sera signé bientôt et nous pouvons opérer ensemble pour sécuriser la mer de Sulu. Cela serait calculé par le quartier général de TNI, bien sûr le quartier général de la marine indonésienne qui opérait ces navires de guerre. Techniquement, nous ne pouvons pas le dire, mais certainement il y aura une présence de nos navires de guerre là-bas. Le colonel Iwan Bambang a déclaré que l'action à mener des opérations militaires aux Philippines par la TNI n'est pas possible à faire à cause des permis du gouvernement philippin. À cette fin, le gouvernement indonésien encourage de réaliser la coopération des trois pays ou tripartites pour la création de la sécurité autour de la mer de Sulu. Comme on le sait, la pression pour effectuer directement des opérations militaires au siège d'Abu Sayyaf a émergé de divers milieux de la société, mais il ne peut pas être fait parce que cela viole la souveraineté d'un pays. Jusqu'à présent, les Philippines n'ont pas donné l'autorisation au gouvernement indonésien de libérer immédiatement ses citoyens qui sont victimes d'otages du groupe militant de ce pays. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré mardi au palais vice-président Jakarta que toute tentative pour libérer des otages indonésiens, à la fois en Malaisie et aux Philippines, est toujours pleine de risques. Selon le vice-président, jusqu'à présent, l'attitude du gouvernement indonésien et les entrepreneurs sont très tolérants et permissifs dans une tentative de libérer les otages indonésiens. Dans l'année dernière, il y en a eu lieu dans les eaux des Philippines et de la Malaisie. Mais l'effort permissif du gouvernement indonésien est effectué uniquement pour la sécurité des victimes qui étaient prétendument prises en otage par le groupe Abu Sayyaf. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le professeur de droit international de l'Université d'Indonésie, M. Hikmahanto Juwana, a affirmé mardi que l'Indonésie devrait apprécier la décision de la Cour permanente arbitrage ou CPA liée au conflit de la mer de Chine méridionale mardi, qui a rejeté les revendications de 9 lignes en Puang Tili comme une région traditionnelle chinoise. Il a dit que le gouvernement indonésien devait immédiatement faire une déclaration qui appelle tous les pays à respecter la décision de la CPA sur la mer de Chine méridionale. En second, selon Hikmahanto Juwana, la Chine devrait se retenir pour ne pas augmenter la présence militaire dans la mer de Chine méridionale. Enfin, les pays doivent dialoguer avec la Chine sur la décision de la CPA, de sorte que la Chine ne se sent pas coincée. Il a ajouté que le gouvernement indonésien devrait prendre l'initiative pour que l'ASEAN fasse une déclaration fermement associée à la décision de CPA concernant la mer de Chine méridionale. Le ministère de l'Industrie, en collaboration avec la Facilité de coopération commerciale de l'Union européenne, Indonésie, organisera un concours d'innovation pour le secteur des industries créatives, surtout le secteur du batik, du cuir et de l'artisanat à Yogyakarta. Ce concours vise à produire les nouvelles entreprises à travers l'innovation. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'Agence de recherche et de développement de l'industrie du ministère de l'Industrie, M. Haris Munandar, à travers un communiqué de presse à Jakarta mardi. En outre, ce concours serait capable d'améliorer la compétitivité commerciale des industries créatives dans le pays, y compris développer le potentiel d'exportation par l'intermédiaire d'une approche innovante. Selon Haris, ce programme pourrait aider à réduire la pauvreté et à rendre la communauté prospère de Yogyakarta. Le concours Innover Jogja est commencé de juillet jusqu'à novembre 2016. La ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Mme Susi Pujastuti, encourage l'exactitude des données sur la pêche mondiale, notamment celles détenues par les pays membres du comité des pêches de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Cela a été dit par la ministre associée mardi à Jakarta. Elle a dirigé la délégation indonésienne à la 32e session du comité des pêches de l'OAA tenu à Rome, Italie, le lundi. Dans cette occasion, la ministre associée a transmis l'engagement du gouvernement indonésien dans la sauvegarde de la pêche durable. L'Indonésie est considérée comme un exemple pour la mise en œuvre des engagements de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée ou INN, sur les mesures concrètes à ratifier et à mettre en œuvre les règles de l'OAA dans la lutte contre ce crime. La ministre des Affaires maritimes et des pêches a confirmé que l'un des efforts qui pouvait être fait est de donner la meilleure donnée sur la pêche à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ou l'OAA, pour la préparation de la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture, ou SOFIA 2016. Sans des données crédibles, selon Mme Soucy, le monde ne peut pas prendre les mesures appropriées dans la construction d'une sécurité alimentaire durable pour l'Indonésie. À cette occasion, Mme Soucy a également présenté le programme One Data Initiative pour augmenter le processus de collecte des données sur la pêche. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanté, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondrez aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiquiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La paix n'est pas encore réalisée au Soudan du Sud ». Le 9 juillet, il y a 5 ans, le Sud-Soudan a officiellement créé en tant que l'État souverain après avoir séparé du Soudan. Mais la paix qui est un rêve du peuple dans le pays n'est pas encore réalisée et au début de cette semaine jusqu'à lundi, plus de 270 personnes ont été tuées à Juba, capitale du Sud-Soudan, à la suite des combats entre l'armée sous la direction du président Salva Kiir avec les anciens rebelles qui sont fidèles au vice-président Riek Machar. La bataille a eu lieu aussi dans la région de Goudiri, où le chef rebelle, qui est aussi le vice-président, Riek Machar, existe. Le conflit a commencé jeudi soir, le 7 juillet. 5 soldats ont été tués dans un affrontement avec les partisans du vice-président Riek Machar à un point de contrôle à Djouba. Après le 5e anniversaire de Soudan du Sud, il y avait un conflit dans une plus grande échelle entre les deux parties. Ceci étant fait la continuation de la guerre civile qui se poursuit depuis décembre 2013. Le manque d'engagement pour créer la paix, à la fois Salva Kiir et Riek Machar, a créé des conditions dans le Sud-Soudan n'est pas favorable. Salva Kiir a accusé Riek Machar d'avoir fomenté un coup d'État à son gouvernement. Il y a près d'un an, en août, les deux parties ont convenu de mettre fin au combat et de conflit et de former un gouvernement d'unité. Mais il était seulement un accord sur le papier. La réalité sur le terrain, il y a encore les conflits. Tandis que les trois mois précédents, les deux parties ont discuté de former le poste de paix. L'armée du Soudan du Sud face aux milices de l'ex-rebel et aussi les attaques de force. Dali Tamim Fartak, le chef de milice qui veut établir un État islamique dans l'ouest du Soudan du Sud. Les membres de troupes sont majoritairement musulmans et aussi les milices chrétiennes, l'ex de l'armée de résistance du Seigneur ou LRA, les plus fortes forces qui luttent pour l'indépendance du Soudan du Sud. Ali Tamim, l'ex des forces de la LRA, qui a aussi fréquemment traversé la frontière ougandaise dans l'est du pays et a provoqué le problème dans les pays voisins. L'ONU a indiqué qu'en raison de la crise au Soudan du Sud, au moins des milliers de personnes ont été quittées leur maison. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion à huis clos pour discuter des derniers combats à Djouba. L'ONU a exhorté les dirigeants du Sud-Soudan à engager à mettre fin le conflit qui commençait depuis 2013. 5 ans ont déjà passé. Le 9 juillet 2016, il n'y avait pas de célébration de joie. Par contre, il y avait une bataille. Selon le ministre de l'Information, Mikhail Makui-Lut, le Soudan du Sud n'a pas célébré parce qu'il voulait économiser des frais. Bien que ce pays soit riche en pétrole, il ne soutient pas l'économie du pays. Les prix du pétrole sont en baisse ces derniers temps. L'infrastructure n'est pas construite parce qu'ils étaient trop occupés à se battre entre eux. La communauté internationale a appelé les parties en conflit à s'abstenir, espérant que les dirigeants du Sud-Soudan non seulement réalisent leur ambition personnelle. Ces problèmes souvent se produisent dans les États nouvellement indépendants, y compris dans le Sud-Soudan. Le conflit entre les dirigeants ne sacrifie pas la population. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Sixième antenne, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Le Siang Lorang inscrit le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde le 13 juillet 1930. Alors qu'elle ouvre les hostilités face au Mexique, la France inscrit par l'intermédiaire de Lucien Laurent le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde de football. Nous sommes alors à la 19e minute et trois autres buts suivront. Finissant sur un score de 4-1, la France, qui est un des seuls pays européens à ne pas avoir dédaigné cette coupe, peut croire en ses chances, mais ce sera en fait sa seule victoire du tournoi. Finalement, le seul Français qui inscrit son nom dans l'histoire pour longtemps est Jules Rimet, instigateur de cet événement devenu l'un des plus populaires au monde. Notre information est sur Chirac, créé l'ANP le 13 juillet 1965. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, est créée sur ordonnance du secrétaire d'État aux affaires sociales chargé de l'emploi, Jacques Chirac. Il prend le relais des services extérieurs du travail et de la main-d'œuvre, SETMO, mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'ANPE est un office autonome qui a pour mission de recenser les emplois disponibles et de venir en aide aux 300 000 chômeurs qui comptent la France en leur proposant travail ou formation. Nous finissons sur aujourd'hui avec l'événement l'avion DC-10 Garuda Indonesia s'est écrasé à l'aéroport Fukuoka. Garuda Indonesia est la compagnie aérienne nationale d'Indonésie. Le 13 juillet 1996, l'avion DC-10 Garuda Indonesia s'est écrasé à l'aéroport de Fukuoka, au Japon, peu après le décollage, tuant 3 passagers. Depuis juin 2007, cette compagnie aérienne ainsi que d'autres compagnies aériennes indonésiennes sont interdites de voler les routes européennes pour des raisons de sécurité. Cependant, cette interdiction a été levée en 2009. Un an plus tôt, cette compagnie aérienne avait reçu la certification de l'audit de sécurité opérationnelle de IATA, ce qui signifie que Garuda a rempli entièrement les normes de sécurité de l'aviation internationale. Garuda inclut dans la liste de compagnies aériennes à 4 étoiles de Skytrax, ce qui signifie que cette compagnie a la performance et le service qui sont bons. En 2012, Garuda Indonesia a reçu la meilleure compagnie aérienne internationale parmi les compagnies aériennes de classe mondiale, avec 91% des passagers ont exprimé une grande satisfaction avec le service de la compagnie aérienne. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serge Ritard, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir. Voici donc la mise au point sur l'environnement et en pour le titre. Les zones de réserve d'animaux sauvages de Danau Pulau Besar et Pulau Bawah deviennent la zone du parc national. Les zones de réserve d'animaux sauvages de Danau Pulau Besar ou Pulau Bawah et les forêts de production de Tasik Serkap, situées dans la résidence de Siak en province de Riau, seront transformées en un parc national d'émeraude. Les plus jeunes forêts de conservation stockent diverses flores et faunes protégées et les paysages naturels qui sont adaptés à devenir une destination touristique. L'inauguration du changement de cette zone à un parc national sera faite par le président Joko Widodo en marge de la Journée mondiale de l'environnement le 21 à 25 juillet en résidence de Siak, Riau. Auparavant, lié au changement du statut de cette zone, la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, a publié une décision le 4 mai 2016 sur la zone de réserve d'animaux sauvages à un parc national de Mérode de 41 480 hectares. Avant de devenir un parc national, le public connaît plus ce parc avec la zone de réserve d'animaux sauvages de Pulau Besar et Pulau Bawah, avec une superficie de plus de 28 000 hectares, et les forêts de production de Tasik Besar, Serkap, avec la superficie plus de 3 300 hectares. Pendant ce temps, du point de vue du gouvernement de résidence de Siak, le changement de forme de cette zone soutient plus l'environnement de la région Siak et souvent affecté par les incendies forestiers. Le résident de Siak, Shamsuar, a dit que le changement du statut de la réserve d'animaux sauvages en tant que parc national de Mérode est une initiative régionale depuis 2001. En plus de protéger la zone, le gouvernement local peut gérer des zones de conservation de l'empiètement ainsi que les incendies des forêts et de la terre. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Forêts, Bambang Hendroyono, a affirmé à Jakarta qu'actuellement, le ministère de l'Environnement et des Forêts priorise la gestion des forêts de conservation dans la performance du ministère. Selon lui, pour le développement et la promotion du tourisme au parc national, ce ministère collabore avec le ministère du Tourisme et des gouvernements locaux. Avec le changement de statut de la zone en tant que parc national, il n'y a pas d'occasion pour la gérer aux forêts de conservation. Avec le changement à un parc national des Mérottes, la zone située dans la résidence de Siak est maintenant gérée basée sur le zonage comme le zonage principal, le zonage tampon et le zonage culturel qui permet aux parties régionales impliquées dans sa gestion. Serge Ritter, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Le président indonésien Joko Widodo devrait être le premier président de la République d'Indonésie qui visite le palais de Sultan Siak ou le palais Aseria Hashimiya situé dans la ville de Siak, Sri Indrapura, la régence de Siak, la province de Riau. Le président visitera le palais de Siak le 23 juillet 2016, coïncide avec la mise en œuvre de la Journée mondiale de l'environnement 2016. Cela a été déclaré par le régent de Siak, M. Samsuar, à Jakarta, mardi. Le vice-président Hatta a eu visité le palais de Siak. Ce sera l'histoire pour le peuple de Riau, surtout les gens de Siak. La ville de Siak, comme l'un des plus propres petites villes en Indonésie, est officiellement nommée pour accueillir la Journée mondiale de l'environnement 2016 par le ministre de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya. Au sommet de l'événement, le président Joko Widodo va planter un arbre dans la cour du palais et soumettre les prix nationaux aux récepteurs de Kalpataru, Nirwasita Tantra Award, Adipura, tels que Paripurna, Buana et Kirana, et Adiwiyata Mandiri. Le gouvernement indonésien a encouragé le gouvernement malaisien et les Philippines à vouloir se mettre d'accord sur les normes opérationnelles des procédures ou SOP des bateaux de patrouille dans la région de la mer qui est souvent utilisée comme lieu d'opération du groupe militant philippin Abu Sayyaf. Jusqu'à présent, l'Indonésie et la Malaisie sont toujours laissées par l'incident de l'arrestation des deux citoyens parce que ce groupe demande toujours leur rançon. L'attaché de défense de l'ambassade d'Indonésie en Malaisie, le colonel Iwan Bambang, a déclaré que le gouvernement indonésien avait répondu sérieusement à l'enlèvement grave des citoyens indonésiens fait par Abu Sayyaf. Cet incident ne peut pas être négligé. En plus d'encourager l'existence des bateaux de patrouille, l'Indonésie a encouragé la création de conditions de sécurité sur la mer de Sulu. Si l'accord est ensuite convenu, l'Indonésie va déployer des personnes de défense, notamment la marine indonésienne, avec des navires de guerre pour garder les zones considérées comme vulnérables.
Mudah-mudahan lah minggu depan ini dengan kehadiran.
Espérons que la semaine prochaine, avec la présence de trois ministres de la Défense à Kuala Lumpur, un accord sera signé bientôt et nous pouvons opérer ensemble pour sécuriser la mer de Sulu. Cela serait calculé par le quartier général de TNI, bien sûr le quartier général de la marine indonésienne qui opérait ces navires de guerre. Techniquement, nous ne pouvons pas le dire. Mais certainement, il y aura une présence de nos navires de guerre là-bas. Le colonel Iwan Bambang a déclaré que l'action à mener des opérations militaires aux Philippines par la TNI n'est pas possible à faire à cause des permis du gouvernement philippin. À cette fin, le gouvernement indonésien encourage de réaliser la coopération des trois pays ou tripartites pour la création de la sécurité autour de la mer de Sulu. Comme on le sait, la pression pour effectuer directement des opérations militaires au siège Abu Sayyaf a émergé de divers milieux de la société. Mais il ne peut pas être fait parce que cela viole la souveraineté d'un pays. Jusqu'à présent, les Philippines n'ont pas donné l'autorisation au gouvernement indonésien de libérer immédiatement ses citoyens qui sont victimes d'otages du groupe militant de ce pays. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré mardi au palais vice-président Jakarta que toute tentative pour libérer des otages indonésiens, à la fois en Malaisie et aux Philippines, est toujours pleine de risques. Selon le vice-président, jusqu'à présent, l'attitude du gouvernement indonésien et les entrepreneurs sont très tolérants et permissifs dans une tentative de libérer les otages indonésiens. Dans l'année dernière, il y en a eu lieu dans les eaux des Philippines et de la Malaisie. Mais l'effort permissif du gouvernement indonésien est effectué uniquement pour la sécurité des victimes qui étaient prétendument prises en otage par le groupe Abu Sayyaf. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le professeur de droit international de l'Université d'Indonésie, M. Hikmahanto Juwana, a affirmé mardi que l'Indonésie devrait apprécier la décision de la Cour permanente arbitrage ou CPA liée au conflit de la mer de Chine méridionale mardi, qui a rejeté les revendications de 9 lignes en Puangtili comme une région traditionnelle chinoise. Il a dit que le gouvernement indonésien devait immédiatement faire une déclaration qui appelle tous les pays à respecter la décision de la CPA sur la mer de Chine méridionale. En second, selon Hikmahanto Juwana, la Chine devrait se retenir pour ne pas augmenter la présence militaire dans la mer de Chine méridionale. Enfin, les pays doivent dialoguer avec la Chine sur la décision de la CPA, de sorte que la Chine ne se sent pas coincée. Il a ajouté que le gouvernement indonésien devrait prendre l'initiative pour que l'ASEAN fasse une déclaration fermement associée à la décision de CPA concernant la mer de Chine méridionale. Le ministère de l'Industrie, en collaboration avec la Facilité de coopération commerciale de l'Union européenne, Indonésie, organisera un concours d'innovation pour le secteur des industries créatives, surtout le secteur du batik, du cuir et de l'artisanat à Yogyakarta. Ce concours vise à produire les nouvelles entreprises à travers l'innovation. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'Agence de recherche et de développement de l'industrie du ministère de l'Industrie, M. Haris Munandar, à travers un communiqué de presse à Jakarta mardi. En outre, ce concours serait capable d'améliorer la compétitivité commerciale des industries créatives dans le pays, y compris développer le potentiel d'exportation par l'intermédiaire d'une approche innovante. Selon Haris, ce programme pourrait aider à réduire la pauvreté et à rendre la communauté prospère de Yogyakarta. Le concours Innover Jogja est commencé de juillet jusqu'à novembre 2016. La ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Mme Susi Pujiastuti, encourage l'exactitude des données sur la pêche mondiale, notamment celles détenues par les pays membres du comité des pêches de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cela a été dit par la ministre Susi mardi à Jakarta. Elle a dirigé la délégation indonésienne à la 32e session du comité des pêches de l'OAA tenue à Rome, Italie, le lundi. Dans cette occasion, la ministre Susi a transmis l'engagement du gouvernement indonésien dans la sauvegarde de la pêche durable. L'Indonésie est considérée comme un exemple pour la mise en œuvre des engagements de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée ou INN. Sur les mesures concrètes à ratifier et à mettre en œuvre les règles de l'OAA dans la lutte contre ce crime. La ministre des Affaires maritimes et des Pêches a confirmé que l'un des efforts qui pouvait être fait est de donner la meilleure donnée sur la pêche à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ou l'OAA pour la préparation de la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture au Sofia 2016. Sans des données crédibles, selon Madame Soucy, le monde ne peut pas prendre les mesures appropriées dans la construction d'une sécurité alimentaire durable pour l'Indonésie. À cette occasion, Madame Soucy a également présenté le programme One Data Initiative pour augmenter le processus de collecte des données sur la pêche. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à voyager à Garut, en province de Java West. Chers auditeurs, Garut est une résidence dans la province de Java West en Indonésie. Cette résidence borde avec la résidence de Sumedang au nord, la résidence de Tasikmalaya à l'est, l'océan Indien au sud et la résidence de Cianjur et Bandung à l'ouest. Garut a une superficie d'environ 3065,19 km². La plupart des zones à Garut sont montagneuses. Pas étonnant si les montagnes sont utilisées comme attraction touristique excellente. En plus de montagnes, à Garut, il y a beaucoup d'autres beautés naturelles cachées. L'une d'elles est le site touristique de Curug Orok. Curug Orok est l'une des nombreuses cascades à Garut. Cette cascade est située dans le village Cikandang, Garut, l'ouest de Java. La distance de voyage pour arriver à ce site touristique est environ 25 km du centre-ville. La route qui doit être passée est la route de Cimanuk, Byongbong et Cisurupan. Bien que le voyage soit assez long, mais il n'a pas été ressenti, parce que les touristes seront divertis par un magnifique paysage naturel provenant du mont Papandayan et le mont Cikuray. Après avoir passé cette route, les voyageurs doivent passer le chemin vers la zone de plantation de Nusantara 8 Papandayan. L'emplacement de Curug Orok est environ 300 mètres de la route principale. Curug ou Cascade Orok est situé dans une vallée. Les touristes qui veulent visiter cet endroit ont dû descendre des centaines de marches. Beaucoup d'arbres verts qui poussent autour de la cascade. Les arbres fournissent la belle atmosphère et l'air frais. Dans cet endroit, il y a plusieurs curugs ou cascades. La cascade principale a une hauteur d'environ 45 mètres. Dans les environs, il y a plusieurs mini-cascades qui rendent le paysage plus beau. Comme nous savons que cette cascade est devenue l'objet et l'attraction touristique assez longtemps. Par conséquent, chaque week-end et les jours fériés, cette attraction touristique est visitée par de nombreux touristes. Chers auditeurs, cette cascade est appelée Curug Orok ou Curug de bébé parce que selon les histoires locales, en 1968, il y avait une jeune femme qui a jeté son bébé à partir du haut de la cascade. Voilà pourquoi cette cascade est appelée Curug Orok ou Curug de bébé. Les frais d'entrée dans cette attraction est très abordable. Chaque personne doit payer le billet d'entrée de 10 000 roupias. Pour les touristes qui prennent la voiture, sont facturés le frais supplémentaire. Pour le coût d'emparquer de véhicules à deux roues, il faut payer environ 2 000 roupias et 5 000 roupias pour les véhicules à quatre roues. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Curug Orok ou cascade de bébé à Garut en province de Java West ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, bienvenue dans la rubrique Apprendre l'indonésien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet intitulé Kamu mau kemana? Ou en français, Où vas-tu? Comme d'habitude, je vais vous présenter le vocabulaire et les expressions qui se rapportent au thème de conversation aujourd'hui. Pergi kemana? Pergi kemana? En français, où aller? Selamat malam. Selamat malam. En français, bonsoir. Bagaimana? Bagaimana? En français, comment? Kabar, kabar, en français, nouvelle. Hari ini, hari ini, en français, aujourd'hui. Sangat baik, sangat baik, en français, très bon ou très bonne. Melihat, melihat, en français, voir. Kalau begitu. Kalau begitu. En français, donc. Kita sama-sama pergi. Kita sama-sama pergi. En français, nous allons ensemble. Itu ide yang bagus. Itu ide yang bagus. En français, c'est une bonne idée. Chers amis, maintenant, je vais vous donner un exemple d'une conversation intitulée « Kamu mau kemana ?» ou en français « Où vas-tu ?» La conversation entre Mary A et Nita B au bureau. A. Selamat malam, Lucy. Selamat malam, Lucy. En français, bonsoir, Lucy. Bagaimana kabar kamu hari ini? Bagaimana kabar kamu hari ini? En français, comment allez-vous aujourd'hui? B. Sangat baik. Dan kamu? Sangat baik. Dan kamu? En français, très bien. Et toi? A. Saya juga. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Saya juga. Saya baik-baik saja. Terima kasih. En français, moi aussi, je vais bien. Merci. B. Kamu hendak pergi ke mana? Kamu hendak pergi ke mana? En français, où veux-tu aller? A. Saya ingin ke Taman Ismail Marzuki melihat drama klasik. Saya ingin ke Taman Ismail Marzuki melihat drama klasik. en français, je veux aller à Taman Ismail Marzuki pour voir le théâtre classique. B. Kalau begitu, mari kita sama-sama pergi ke sana. Kalau begitu, mari kita sama-sama pergi ke sana. En français, donc allons-y ensemble. A. Itu ide yang bagus. Itu ide yang bagus. En français, c'est une bonne idée. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie pour ce soir. Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de musique, édition de mercredi, avec moi, Mohamad Suartono. Pour ce soir, on vous présente la belle chanteuse Nika Ardila. Elle est célèbre au début des années 90. Bon, comme le début de notre rencontre, écoutez d'abord la première chanson de Nika Ardila intitulée Bintang Kehidupan. Bonne écoute.
Sekali
Serzami Nika Ardila Elene Alafil de Bandung ang Frafang de Java de l'Ouest au 27 décembre 1975. Son père, Raden Edi Kusnadi, et sa mère, Nining Ning Sihirat. Depuis sa petite, elle aime chanter et elle participe à certains festivals à Bandung. Puis, elle a rencontré le musicien senior Dedi Dores. Donc, on peut dire que Nika Ardila a trouvé sa fortune de cette rencontre qui amène sa bonne carrière dans le monde musical en Indonésie. Cette histoire de Nika Ardila est commencée quand, en 1987, la mère de Nika Ardila a visité l'Association des musiciens de l'Indonésie pour faire présenter sa petite Nika Ardila. Et puis, sous l'auspice de Denis Canton comme le maître de chanter, et Dini Sabri comme manager et Dedi Dores comme composeur, ces trois musiciens font Nika Ardila devenu le chanteuse très connue. Et vous avez la collaboration de trois musiciens avec Nika Ardila. Le résultat est énorme. La chanson de Seberkasinar dans son premier album a remporté 500 000 de copies. Plus tard, pour le deuxième album, sous le titre Bintang Kehidupan, c'est fou maintenant. Cet album a remporté 2 millions de copies. C'est vous alors. Alors, les autres albums de Nika Ardila ont de grands succès au public. Bon, chers amis, maintenant, avant de continuer à écouter encore la chanson Seberkasinar de Nika Ardila. Bonne écoute.
Thank you.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.